pas faux, l'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Cindy.
Bonjour Rose, bonjour à tous et à toutes.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix.
Nous sommes ravis de vous accompagner aujourd'hui comme chaque mardi à midi pour parler science avec différents invités. Nous sommes le mardi 17 décembre et aujourd'hui nous allons parler des représentations qu'ont les Canets de leur territoire.
Une planche intitulée « Caen vue par des cartes mentales géographiques d'habitants, une diversité de représentations » a été publiée le 24 octobre dernier dans l'Atlas social de Caen. On y découvre 8 cartes mentales, toutes réalisées par des Canets, révélant le ressenti et les liens affectifs qu'ils ont tissés avec leur lieu de vie. Pour en parler, nous serons accompagnés de l'auteur de cette étude, Jean-Marc Fournier, professeur en géographie, auteur et coordinateur de l'Atlas social de Caen.
Mais avant cela, c'est l'heure des infos sciences de la semaine. Et on commence avec Perrier, qui se retrouve sous la menace d'un arrêt de la production d'eau minérale naturelle.
C'est en tout cas ce que préconise l'autorité régionale de la santé d'Occitanie à l'origine d'un rapport d'inspection révélé lundi 16 décembre par Le Monde et Radio France. Plusieurs problèmes sont mentionnés, à commencer par la présence de micro-organismes dans les eaux brutes, quelque chose de strictement interdit par la réglementation sur les eaux minérales naturelles. Et pour pallier la qualité insuffisante de sa ressource en eau, l'usine Perrier aurait renforcé le traitement par microfiltration, une pratique jugée non réglementaire par l'ARS d'Occitanie.
Et la source de cette eau minérale présenterait également un risque virologique ?
Exactement, car les microfiltres utilisés ne permettraient pas la rétention des virus, présentant un risque sanitaire pour les consommateurs. Et l'entreprise Nestlé Waters n'est pas la seule mise en cause dans cette affaire. Le risque viral aurait également été négligé par le gouvernement. Malgré les avertissements de l'inspection générale des affaires sociales et de l'ARS, le gouvernement d'Elisabeth Borne aurait autorisé la multinationale suisse à utiliser ces filtres. Une commission d'enquête sénatoriale a donc été lancée pour faire la lumière sur les traitements interdits utilisés par les industriels du secteur, mais aussi sur la responsabilité des pouvoirs publics dans cette affaire. Le tourisme serait responsable de près de 9% des émissions mondiales de gaz à effet de serre en 2019, d'après une étude publiée mardi dernier dans Nature Communication.
Et oui, cela représente une empreinte carbone touristique de 5,2 gigatonnes d'équivalent CO2. Avec la croissance continue de la demande touristique, les émissions du secteur ont augmenté de 3,5% par an entre 2009 et 2019. Si aucun changement n'est fait dans l'industrie, ces hausses d'émissions devraient continuer à hauteur de 3 à 4% par an, d'après l'autrice principale de l'étude. Une évolution préoccupante qui nous emmène bien loin des objectifs fixés par les accords de Paris sur le climat. Pour les respecter, il faudrait réduire les émissions du secteur de plus de 10% par an.
Mais comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour réduire ces émissions ?
Dans un premier temps, on pourrait limiter les transports aériens et en particulier les vols long courriers internationaux. L'aviation représente en effet 52% des émissions directes du tourisme, mais ce n'est pas gagné puisque l'année prochaine, les compagnies aériennes s'attendent à battre leur record de passagers avec 5 milliards de voyageurs attendus. Et en parlant de l'impact environnemental de l'aviation, les compagnies aériennes japonaises ont désormais remplacé le kérosène par des huiles de cuisson recyclées.
Les récentes législations sur les carburants de l'aviation incitent les compagnies aériennes à se fournir en carburant recyclé. Des supermarchés japonais invitent d'ores et déjà les consommateurs à ramener leurs huiles usagées pour fournir les compagnies en carburant propre.
Mais comment l'huile usagée est-elle transformée pour alimenter des avions ?
Une fois récoltée et refroidie, elle est filtrée par une usine pour retirer toutes les impuretés. Elle est ensuite raffinée et transformée en kérosène. Ce carburant recyclé permettrait de réduire de 60% les émissions de CO2 de l'aviation. Et si plusieurs pays, notamment l'Union européenne, ont mis en place des réglementations strictes pour que ce carburant remplace progressivement le kérosène classique, beaucoup de pays ne parviennent pas encore à récolter assez d'huile. Ils sont donc obligés d'en importer de Malaisie ou de Chine. Des chercheurs ont réussi à mettre une date sur la rencontre entre les Homo sapiens et les hommes de Néandertal.
Deux équipes internationales de chercheurs se sont accordées pour publier simultanément leur étude de paléogénétique jeudi dernier. Selon celle-ci, l'Homo sapiens moderne et l'homme de Néandertal se seraient côtoyés pendant 7000 ans, c'était il y a 47 000 ans. Pendant cette période, les deux espèces auraient véritablement vécu ensemble, elles se seraient mélangées, auraient formé des couples et donné naissance à des hybrides. Cette période de coévolution expliquerait que nous possédions 1 à 2% d'ADN néandertalien. Nous aurions hérité notamment de leur immunité face à certaines maladies.
Mais comment les chercheurs en sont arrivés à déterminer cela ?
Eh bien, ils ont séquencé les génomes de 275 personnes et de 59 humains préhistoriques ayant vécu jusqu'à il y a 45 000 ans pour les plus anciens. Ils y ont identifié des segments d'ADN néandertalien et en estimant leur ascendance, on peut déterminer la période durant laquelle ils ont été intégrés au génome humain. Des chercheurs ont découvert un crustacé dans l'une des fosses les plus profondes de la planète.
Il s'appelle Dulcibella kamanchaka et a été retrouvé à 8000 mètres de profondeur dans la fosse d'Atacama à l'est de l'océan Pacifique. D'apparence translucide, ce crustacé tient son nom du terme ténèbres dans les langues des peuples de la région des Andes, une référence à l'habitat dans lequel il vit. Et du haut de ses 4 cm, le Dulcibella kamanchaka est près de 2 fois plus grand que les autres crustacés vivant à cette profondeur.
Mais comment les chercheurs ont-ils découvert cet amphipode ?
Au cours de l'expédition 2023 du système intégré d'observation des grands fonds marins visant à explorer et à comprendre les processus tectoniques et océanographiques de la région. Et si cette trouvaille est une avancée pour mieux connaître la biodiversité de la fosse d'Atacama, elle ne devrait être que le début d'un enchaînement de découvertes pour ce groupe de chercheurs. Et pour terminer ce flash coup d'œil dans le rétroviseur, il y a tout juste 86 ans, le 17 décembre 1938, Otto Hahn et Fritz Strassmann découvraient la fission nucléaire.
Ce phénomène physique consiste à scinder le noyau d'un atome lourd en le bombardant avec un neutron. La division libère de l'énergie sous forme de chaleur et de rayonnement. Elle libère aussi d'autres neutrons qui peuvent à leur tour aller diviser des noyaux d'atomes. Il se crée alors une réaction en chaîne qui libère une quantité d'énergie considérable. Ce processus énergétique très puissant est à l'origine d'inventions qui ont radicalement changé le monde, notamment la bombe atomique et les centrales nucléaires.
Et cette fission poserait plusieurs problèmes.
Effectivement, on ne sait pas quoi faire des nouveaux noyaux issus de cette division. Ceux-ci sont très instables, ils se désintègrent spontanément en émettant des rayonnements dangereux pour les organismes vivants. C'est ce qu'on appelle la radioactivité. Le processus de désintégration de ces déchets nucléaires peut durer des milliers, voire des milliards d'années. Alors pour ne pas contaminer l'environnement et la santé des populations à long terme, la question de leur stockage est cruciale.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Comment les habitants se représentent la ville de Caen et qu'est-ce que cela dit du lien qu'ils entretiennent avec leur espace de vie? En avril 2023, une recherche collaborative a été menée au Dôme. Une 60aine de personnes ont été invitées à dessiner Caen sous la forme d'une carte mentale. Et après l'analyse des différentes cartes produites, une planche intitulée « Caen, vue par des cartes mentales géographiques d'habitants, une diversité de représentations » a été publiée dans l'Atlas social de Caen.
Pour en parler, nous sommes accompagnés de l'auteur de cette étude, Jean-Marc Fournier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en géographie, auteur et coordinateur de l'Atlas social de Caen. Avant de parler de votre étude et des cartes mentales, on pourrait commencer par faire un petit point sur qu'est-ce que la cartographie ?
Donc la cartographie, c'est la représentation de l'espace avec différents types de cartographies. Vous avez des cartographies conventionnelles, avec, on met par exemple le nord vers le haut, mais à d'autres époques et sur d'autres continents, on avait d'autres manières de représenter l'espace avec d'autres conventions. Donc les cartes que l'on connaît actuellement, ce sont des conventions internationales qui sont reconnues, mais ça n'a pas toujours été le cas.
Et donc, en octobre dernier, vous avez publié une planche sur Caen, dont on vient de parler. Ces planches, donc on y voit des cartes mentales géographiques qui ont été dessinées par les habitants de Caen. On peut peut-être revenir sur la définition d'une carte mentale géographique. Concrètement, quand on parle de carte mentale, qu'est-ce que c'est ?
Alors, une carte mentale, c'est une carte personnelle, subjective, que l'on demande de représenter sur une feuille de papier vierge et les personnes donc représentent leur lieu, ce qu'on a pour appeler les lieux vécus, là où j'habite, là où je vais faire mes études, là où je travaille, là où je vais à l'école de mes enfants, là où je vais, etc. Donc tous ces lieux-là, on les représente de manière subjective, sans respecter les distances. C'est vraiment quelque chose de très personnel.
Comment vous en êtes arrivé à travailler sur ce projet ?
Alors, c'est quelque chose d'ancien en géographie, qui a été à la mode dans les années 70, parce que c'était nouveau à l'époque. Ensuite, c'est tombé un peu en désuétude dans le milieu de la recherche, en fait. Et donc c'est quelque chose qui apparaît régulièrement, mais qui n'est pas très très développé. Et donc pour l'Atlas de Caen, on a à peu près maintenant 120 planches, et il n'y avait rien sur les cartes mentales. Donc c'était un projet qu'on avait, de voir comment l'espace est déformé, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment chaque personne déforme l'espace par rapport à l'espace réel. Et en tant que chercheur, c'est la différence entre l'espace représenté et l'espace réel qui nous intéresse.
Alors, on va revenir sur cette différence un peu plus tard, mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment a été organisée l'étude avec les participants au Dôme ?
Voilà. Alors donc il y avait donc 63 personnes. Donc c'était des ateliers qui duraient 3 heures. Donc on leur a présenté l'atlas. Et puis donc il y avait un questionnaire à remplir sur tous les lieux. Tous les lieux que ils, où ils ont été au cours de leur vie. Donc ça peut être un déplacement à l'étranger, voilà, les grands-parents à Paris ou en Bretagne, etc. Et d'expliquer aussi leurs lieux du quotidien, les lieux toutes les semaines où on va, le sport, les bars, etc., toutes les activités. Tout ça pour avoir une idée de l'ensemble des lieux des personnes. Parce qu'en fait, les cartes, elles varient en fonction de chacun, en fonction de son âge, de son expérience des lieux, et également de la manière dont on vit le territoire. Donc ça, c'est très personnel. Et ce qui est intéressant dans ces cartes mentales, c'est de voir les points communs et les différences.
Justement, à l'issue de cette étude, vous avez réussi à dégager 8 types de cartes. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, alors je précise qu'il y avait des personnes donc, de 18 à 59 ans avec différents profils sociaux, des cadres, des personnes en recherche d'emploi, des étudiants, enfin c'était varié. Alors ensuite, on fait une typologie, c'est-à-dire que dans les protocoles scientifiques qui sont reconnus dans ce domaine, on a des cartes où on a une échelle géographique très large. C'est-à-dire que c'est des gens qui voient global et qui ne rentrent pas dans les détails. Donc, ils vont mettre Ouistreham, Ifs, Mondeville, Caen, et en fait, ils vont avoir une vue de, voilà, de nombreuses communes. Mais ils vont juste marquer une petite croix là où ils habitent et ils ne vont pas avoir l'échelle fine de leur quartier. Et d'autres personnes, au contraire, ne vont voir que leur quartier et voilà 500 mètres autour de logement et ne vont pas représenter des espaces plus lointains. Donc ça renseigne sur la manière dont on perçoit l'espace.
Et est-ce que on a des types de cartes qui sont plus revenus que d'autres ? Est-ce que on a eu plus de personnes qui voyaient très large, comme vous venez de l'expliquer, ou d'autres personnes qui montraient que des petites parcelles de camp, en fait ?
Alors donc là, c'est un échantillon réduit. Mais j'ai un collègue qui est en train de faire une étude avec notre ingénieur de recherche à partir de 4000 cartes mentales. Vous pourrez l'inviter dans quelques mois. Qui fait depuis 10 ans, en fait, auprès des étudiants. Donc, il a amassé et donc là, il va y avoir un traitement quantitatif, statistique, avec la numérisation des cartes pour voir justement statistiquement ce qui ressort. Après, sur une analyse qualitative comme celle-là, en fait, il y a toujours le château, la gare SNCF, voilà, les abbayes, en fait, qui sont des grands repères que tout le monde met pratiquement.
Quel est le processus, la méthode qui permet de définir ces différents types ?
Alors, donc, dans les études qui ont été faites, en fait, il y a toujours des représentations. Alors, d'abord, il y a une différence entre les gens qui représentent l'espace de manière continue et discontinue. C'est-à-dire, les gens qui représentent l'espace de manière discontinue, ils font des vignettes, par exemple. Ils font des îles, des archipels. Et donc, il y a des éléments, mais ils ne sont pas reliés entre eux. Donc ça, c'est une première différence. Ensuite, il y a des gens qui imitent les représentations conventionnelles. Alors, donc, pour revenir à la typologie que vous avez avancée tout à l'heure, c'est les gens qui vont essayer de représenter un plan de ville, en fait. Et donc, ils sont influencés par ce modèle-là. Il y a des gens qui ont une fibre plus artistique et qui vont nous faire des tableaux avec alors presque le soleil, le ciel, voilà les choses, plein de couleurs, du rose, du vert, etc. Et en fait, c'est une œuvre artistique. Mais dans cette œuvre artistique, il y a quand même leur espace vécu. Donc, chacun représente, en fonction de ses qualités graphiques également. Voilà, donc ça, c'est une autre typologie. On a des personnes qui insistent sur les transports. Et donc, ils font des itinéraires. Ils ont une vue en réseau, je dirais, de la ville. Donc, ils tracent voilà, leur itinéraire du point A au point B tous les jours, du point B au point C voilà, une fois par semaine, exceptionnellement, etc. Donc, ils ont une vue en réseau. Il y a des gens qui déforment l'espace en fonction des liens affectifs. Il va y avoir voilà, mon appartement, l'appartement de ma copine, le lieu où habite ma grand-mère, etc. Donc, c'est la famille, en fait, que l'on va voir. Et d'autres personnes vont voir les loisirs ou les bars, etc. Donc, cette typologie, on la retrouve dans toutes les études, en fait. Donc, il y a des cartes en réseau, il y a des cartes continues, il y a des cartes discontinues, il y a des cartes artistiques, il y a des cartes avec les liens familiaux, etc. Ça, on retrouve ça dans de nombreuses cartes mentales qu'on fait partout dans le monde.
Et donc, vous avez parlé d'espace vécu. Quelle différence significative on peut retrouver dans ces cartes entre l'espace vécu et l'espace réel, ce à quoi ressemble vraiment Caen d'un point de vue géographique ?
Alors, il y a des gens qui vont oublier, par exemple, quelque chose d'énorme à côté de chez eux. Je prends un exemple. Voilà, quelqu'un qui habite près d'une église, ils vont représenter le bar, le stade de foot, etc. Et puis, bah, le monument, le principal repère, en fait, il ne va pas être là. Parce que pour ces personnes, c'est peut-être un repère, mais au moment de faire la carte, eh ben ça a disparu. Donc ça, parce que bah, pour ces personnes-là, ce n'est pas quelque chose d'important. Donc les cartes, elles font ressortir les éléments qui sont importants. Et donc c'est pour ça qu'en fait c'est intéressant. Il y a aussi des gens qui donc, indiquent les rues avec le nom des rues. Et puis, tout d'un coup, il en manque une. Mais sans doute que ce n'est pas le hasard. Peut-être qu'ils ont eu dans cette rue-là, soit ils n'y passent jamais, soit ils ont voulu l'oublier. Donc, en fait, c'est aussi ces cartes des témoins de la mémoire de l'espace.
Justement, vous parlez des noms de rues qui sont parfois indiqués. On a aussi des personnes qui vont nommer beaucoup de lieux et d'autres qui ne vont rien nommer du tout. Qu'est-ce que ça dit, ça, de la manière dont on vit dans Caen ?
Tout à fait. Donc, ça indique une manière de penser le territoire et l'espace de manière différente. Et en fait, on pense qu'on habite la même ville, mais en fait, on n'habite pas la même ville. Et c'est ça qui est incroyable. Il y a des gens, ils ont besoin des noms de rue pour se repérer. Voilà, le boulevard Leroy, l'avenue Saint-Jean, etc. Et pour eux, ce sont des repères avec un nom. Et pour d'autres, c'est... Ah ben, la rue qui va vers la gare. Et c'est quoi le nom ? Ben, la rue qui va vers la gare. Et donc, c'est pas important, en fait, que ce soit tel nom ou tel autre nom. Donc, les personnes, en fait, ont un lien au territoire qui est nommé ou pas.
Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, il y a des lieux, des marques qui reviennent sur ces représentations ?
Oui, alors, le château, il apparaît. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui représentent le château un peu comme il est. Alors, c'est difficile. Et il y a des gens qui représentent le château de manière normée, c'est-à-dire avec une représentation de château qui n'a rien à voir avec le château dans la réalité. Et c'est pareil, la gare SNCF, il y a plusieurs manières. Il y a des gens qui font les rails, il y en a d'autres qui dessinent une petite locomotive. Et ça dépend du vécu de chacun, en fait, de sa culture et aussi de la position sociale. Je pense qu'il y a des différences aussi. Dans d'autres études, l'ont montré. Les personnes, par exemple, qui se déplacent plus en voiture, ils vont pas voir la même chose que les gens qui se déplacent à vélo ou à pied. Ou même chose chez les scolaires, en fait. Hein. Les cartes mentales qu'on fait chez des élèves de primaire, en fait, ça va pas être ceux du collège, bien sûr, et pas ceux d'adultes. Donc, il y a la question de l'âge, et il y a aussi la question de la position sociale que l'on a.
Et autre élément qui revient beaucoup dans les cartes, dans tous les types de cartes confondues, on retrouve ça quasiment à chaque fois, c'est l'importance accordée aux axes de passage, aux routes, notamment aux périphériques, qui quasiment dans tous les types de cartes. Comment on peut expliquer cette importance de la mise en réseau de la ville ?
Alors le périphérique, c'est un lieu où certaines personnes y passent, j'allais dire, une partie de leur vie, des heures et des heures, parfois dans les embouteillages. C'est un axe structurant et c'est aussi une frontière ou une barrière. Donc, pour beaucoup de personnes, c'est nécessaire de définir les limites, les frontières, les barrières de leur territoire. Et le périphérique, pour certaines personnes, c'est à l'intérieur du périphérique. Enfin, voilà. Donc, c'est le besoin de délimiter son espace.
À la fin des ateliers, les habitants ayant participé à l'atelier ont pu présenter leurs travaux les uns aux autres. Est-ce que vous avez eu des réactions?
Oui, alors donc effectivement, à la fin de l'atelier, chacun présentait sa carte. Et l'étonnement, c'était de voir la diversité des représentations. Et c'est là que on croit habiter la même ville, mais on l'aperçoit de manière tellement différente que finalement, on n'habite pas tout à fait la même ville. Et c'est ça qui est intéressant. Oui, il y a eu des surprises. Il y avait des personnes pour les cartes étaient, alors je ne vais pas dire pauvres, mais elles avaient peu d'éléments. Parce que c'est des gens qui n'ont pas besoin de... Alors, soit ils représentent les choses de manière graphique. Il y a des gens qui nous ont dit, mais moi, je ne sais pas dessiner, je vais avoir du mal. Mais non, pas du tout. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise carte. Je veux dire, c'est pas un exercice qu'on fait avec du bon et du mauvais. De toute façon, tout est bon. Mais il y a des gens, ils n'ont pas besoin, c'est tout. Ils ont besoin d'indiquer juste quelques éléments et ça leur suffit. Et il y en a d'autres... Eh ben, la feuille blanche, donc c'était des feuilles blanches à trois, c'était rempli, voilà, on voyait presque plus le blanc.
Quel était leur retour sur l'exercice? Est-ce qu'ils ont trouvé ça dur de cartographier?
Non. Certains avaient une appréhension en disant, mais je sais pas faire. Mais on leur a dit, mais tout le monde sait faire. Voilà, il n'y a pas... C'est pas... Et dans tous les cas, ce sera intéressant. Donc... le fait d'avoir rempli un questionnaire avant aide les personnes dans le protocole scientifique, aide les personnes à mentalement à faire l'inventaire de tous les lieux qu'ils connaissent. Et donc ça, c'était une étape importante pour arriver à représenter l'espace scanné.
Et dans le très peu de consignes que vous avez données aux participants, vous avez notamment demandé de mentionner le lieu de l'habitat de la personne dans le camp. Pourquoi ce choix?
Alors, ça permet de comprendre beaucoup de choses. D'abord, spontanément, les gens l'indiquent, mais c'était une manière de comprendre leur rapport au lieu d'attache, en fait. Ce que l'on peut dire, c'est que il y a certaines personnes qui construisent leur territoire à partir de leur logement, et d'autres, leur logement, il est totalement déconnecté. Et c'était intéressant de voir sur certaines cartes, il y avait plein de lieux qui manifestement étaient des lieux très importants et qui étaient complètement déconnectés. Donc c'est des gens qui rentrent chez eux, ils dorment, ils repartent le lendemain, ils sont rarement en lien avec leur quartier, en fait. Mais ils ont territorialisé leur vie, territorialisé dans le sens, donc, approprié, avec un attachement affectif aussi au lieu, totalement en dehors de leur logement. Donc, en tant que géographe, c'était important de voir comment on construit un territoire, avec le logement ou en dehors de son logement.
Et à partir de la carte mentale de quelqu'un, est-ce qu'on peut réussir à déduire des choses sur la personne qui l'a dessinée?
Alors, on n'est pas des psychologues, hein, on est des géographes, donc nous, c'est les lieux qui nous intéressent. Ce que l'on peut voir, ben, on voit un petit peu la vie des gens. Après, là, c'était un exercice qui se fait dans un protocole public. Les gens, ils savaient qu'ils allaient présenter leur carte après. Donc voilà, ils ont peut-être des lieux secrets qu'ils n'ont pas représentés, ou alors ils l'ont représenté de telle manière à ce que ce soit indétectable. On comprend, les lieux où les personnes vont. Il y a des gens qui sont plus casaniers que d'autres. Il y a des gens, voilà, ils ont moins envie de se déplacer. Donc, il y a des gens qui sont plus immobiles ou plus sédentaires. Je sais pas comment on peut dire les choses de différentes manières. Et il y a des gens qui sont plus nomades. Voilà, donc ça, on le voit.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Nous sommes avec Jean-Marc Fournier pour parler de votre étude intitulée « Camp vu par des cartes mentales géographiques d'habitants, une diversité de représentations ». Quel est l'intérêt de faire participer le grand public à des recherches scientifiques comme celle-ci?
Alors c'est très important d'être dans le cadre d'une recherche où le public participe parce que des recherches sur la société... alors d'abord on a besoin de personnes. Et deuxièmement, c'est important que les gens participent à la science et à la fabrication de la science. Les scientifiques sont là pour aider les sociétés à prendre des décisions, qui sont des décisions de citoyens ou des décisions politiques. Mais notre rôle de scientifique, c'est donc de fournir des connaissances incontestables à la société. Et donc, la recherche en sciences humaines, ça consiste à s'approcher des personnes et les faire participer, c'est leur faire comprendre comment fonctionne la science et à leur faire prendre conscience que ces connaissances, elles sont importantes. Elles sont vérifiées, elles sont contrôlées par un protocole scientifique et qu'elles sont incontestables. C'est important dans une époque où on a parfois tendance à mélanger le vrai du faux, les fake news, etc., les réseaux sociaux où 1000 chercheurs peuvent donner un avis et puis un influenceur va dire quelque chose sur les réseaux sociaux et puis tout d'un coup, ça va effacer la parole de 1000 scientifiques. Donc, c'est dans ce sens-là que c'est important de faire participer le public à des protocoles de recherche.
En quoi la carte mentale est un bon support pour étudier le lien entre les habitants et leur territoire ?
Alors, c'est important parce que le territoire, c'est quelque chose de pas facile à connaître. Quand on prend le tramway ou le bus, on voit plein de gens autour de soi et on pense que les personnes qui sont autour de nous voient et se représentent les mêmes choses que nous. Et en fait, si on se mettait un peu dans leur tête, en fait, on verrait que ils voient pas le monde de la même manière. Donc, ces cartes mentales géographiques, elles insistent sur les déformations et la diversité des représentations. Et c'est ça qui est vraiment intéressant en tant que chercheur de montrer cette diversité.
Donc, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, mais rapidement. Mais est-ce que les formes de cartographie subjectives, comme les cartes mentales, elles sont souvent utilisées en géographie? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a eu un temps, une certaine reconnaissance, et puis qui s'est perdu? Vous en avez parlé un peu tout à l'heure.
Oui. Donc, c'est un protocole de recherche, en fait, qui était à la mode dans les années 70. Il y en a eu pas mal dans les années 80. Dans la géographie anglo-saxonne, aux États-Unis, en Angleterre, en France également un petit peu, puis ensuite c'est tombé en désuétude. Là, on voit un petit peu ce type de recherche, mais ça reste très 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 limité. Pourquoi ? Parce que les interprétations, comment je pourrais dire, ne peuvent pas toujours être poussés très loin. C'est-à-dire que une fois qu'on a montré la diversité, une fois qu'on a montré les différences, les ressemblances, on peut pas aller beaucoup plus loin. Donc, dans la recherche, on essaie toujours, de s'ouvrir à de nouveaux dispositifs, de nouvelles choses. Et là, j'ai un collègue en fait qui a fait des cartes mentales, donc au festival Turfu avec le Dôme là, et donc qui pourra vous expliquer sa démarche, où les personnes sont filmées en train de dessiner et également leurs commentaires sont enregistrés. Par exemple, quelqu'un va dire « Alors là, je suis en train de dessiner le tour que je fais à vélo tous les dimanches. Je vais vous montrer... Alors là, c'est la forêt où je vais promener mon chien. Là, c'est le magasin où je vais acheter mes chocolats, etc. » Et donc, là, la carte mentale, on peut l'analyser, je dirais, de manière plus fine, de manière plus précise, et on peut approfondir l'analyse et donc ça donne lieu à des recherches plus riches. Là, le protocole était différent. C'était une feuille A3 vierge et l'analyse se base sur le résultat. Alors, il y a le questionnaire, d'accord. Il y a aussi la restitution orale, enfin la présentation orale qu'il y avait, qui nous a aidés, mais c'était pas enregistré, donc l'analyse, elle reste limitée. Pourquoi ces recherches sont pas plus développées? Oui, parce que y a des modes dans la recherche. Et puis aussi parce que le protocole avec une caméra, un micro, que les gens voient bien, etc., ça prend beaucoup de moyens, beaucoup de temps, et que ce n'est pas toujours évident d'avoir... on a le dôme, qui est une chance extraordinaire pour faire ça, mais faire des cartes mentales, il faut réunir les gens à un même moment pour que ce soit... qu'il n'y ait pas d'influence par rapport à un événement qui ait pu y avoir, des inondations, etc., où là, les choses seraient différentes. Et puis, il y a plein d'adultes... spontanément, ils refuseraient. Donc, rassembler des gens de 18 à 59 ans dans un même lieu, d'horizons socio-professionnels différents, et leur dire, vous ne bougez pas pendant 3 heures, ce n'est pas si simple. Donc, y a le fait d'avoir des personnes disponibles. Et c'est là que la recherche participative, elle est fabuleuse, parce que ça nous ouvre des portes qui sont très, 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 très intéressantes.
Et comment fait-on pour allier l'analyse scientifique et les représentations subjectives ?
Alors, tout ce qui est représenté, nous, on les considère comme un corpus de données. Donc, il ne s'agit pas de dire ça c'est vrai, ça c'est faux. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, toutes les cartes sont intéressantes. Ensuite, dans la littérature scientifique, il y a des catégories, des typologies qui existent déjà. Donc, et qui correspondent aux grandes catégories que j'ai annoncées tout à l'heure, espace continu, discontinu, etc. Donc, nous, notre travail, c'est de voir est-ce que ça peut correspondre à ces catégories, est-ce que certaines cartes ne correspondent à aucune catégorie, et à ce moment-là, pourquoi, et de faire cette classification. Donc, ce qui est subjectif, c'est ce que les gens y dessinent. Mais nous, notre protocole, il est objectivé et contrôlé par d'autres scientifiques qui ont travaillé dans ce domaine.
Et est-ce qu'il va y avoir des suites à ce projet ? Est-ce qu'il y a une volonté de proposer aux habitants de faire d'autres cartes ou de prolonger ou d'utiliser cette étude pour autre chose ?
Alors, utiliser cette étude pour faire autre chose, oui. En fait, mon collègue là, qui travaille sur le protocole, donc avec enregistrement, filmé et enregistré, donc ça c'est une autre étape. Après, ça peut être intéressant au niveau d'un quartier. Quand on veut aménager une place publique, on a des personnes retraitées, on a des pavillons avec des classes moyennes, on a quelques pavillons plus huppés, on a du logement social, on a une crèche, et on se dit, mais comment on va aménager cet espace ? Alors on peut dire, on va faire des bancs, on va faire un skatepark, on va faire... Et en faisant dessiner cette place par les habitants qui pratiquent, on va voir ce qui se projette comme le lieu rêvé. Et ça va permettre de mettre en évidence des aménagements ou des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc, j'ai travaillé au mois de septembre avec la MJC, le Centre socio-culturel du Chemin Vert. Et donc, on avait travaillé avec des groupes d'habitants sur des cartes mentales. Et on va poursuivre avec un groupe jeune, en fait, dans un quartier où les jeunes, ils trouvent, je fais vite, ils trouvent qu'ils n'ont pas tout à fait leur place. On reproche, les jeunes, ils traînent dans la rue, eux, ils trouvent qu'ils n'ont pas leur place. Et l'idée de leur faire faire des cartes mentales, ça va être une manière de collecter leurs avis, leurs besoins et leurs rêves d'un autre territoire. Donc, il peut y avoir, avec ces cartes, une utilité pour faire parler les gens de leur lieu quotidien et ensuite qu'il y ait une stratégie d'aménagement.
Et ce projet, il était aussi dans le cadre de l'Atlas social de Caen ?
Alors oui, on va publier en 2025 sur nos expériences qu'on a eues au chemin vert, enfin qui sont en cours en fait, donc c'est pas terminé.
Et est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur l'objectif de cet atlas ?
Alors l'objectif de cet atlas, c'est que on a beaucoup d'informations à l'université en géographie depuis 1970, le premier atlas de Normandie avec des cartes sur Caen date de 1970. Et que c'était totalement méconnu. Voilà, ça reste dans un petit cercle d'initiés sur le campus, voilà, dans des revues électroniques spécialisées qui sont accessibles à tous, mais en fait personne n'y va parce que c'est assez compliqué. Voilà, donc c'est de rendre accessible à un plus grand public des informations scientifiques en retirant tout ce qui concerne les passages, les théories, les protocoles, les méthodes lourdes et qui sont parfois ennuyeuses, et de simplifier en fait pour que ce soit compréhensible par le plus grand nombre. Et de cette manière-là, les résultats de recherche sont davantage accessibles aux citoyens.
Et est-ce que vous arrivez à évaluer ou à voir si aujourd'hui, maintenant que l'Atlas social publie ses études en accès libre, est-ce qu'il y a plus de gens qui viennent regarder, se renseigner, prendre connaissance des études ?
Oui. En fait, franchement, notre site, donc en fait, il fonctionne très bien. Et on voit bien qu'il y a des personnes qui viennent régulièrement consulter le site. Et que donc c'est un outil voilà, pour comprendre sa ville pour toute catégorie de personnes.
Merci beaucoup Jean-Marc Fournier d'être venu à notre micro. On le rappelle, vous êtes professeur en géographie, auteur et coordinateur de l'Atlas social de Caen. Bonne journée à vous.
Merci à vous.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
C'est pas faux, c'est bientôt terminé, mais avant de se quitter, voici l'agenda de la semaine. Jeudi 19 décembre de 18h à 20h, le club d'aviron de Caen organise une conférence questions-réponses au sujet de l'alimentation. Quel repas idéal pour rester en bonne santé? Comment gérer son alimentation en fonction de ses problèmes de santé? Et comment l'adapter à son activité physique et sportive? Au cours de cette soirée, vous découvrirez comment adopter un régime adapté à vos besoins tout en respectant la planète et votre porte-monnaie. C'est gratuit, alors rendez-vous jeudi à la Société Nautique de Caen Calvados.
Depuis vendredi, l'exposition Histoire parallèle, photographie et intelligence artificielle est présentée à la bibliothèque Alexis de Tocqueville. Lucie de Barbua et Simon Brodeck présentent une série de reconstitutions des œuvres marquantes de l'histoire de la photographie. Leur particularité, elles ont été réalisées à l'aide de l'intelligence artificielle. Par de brèves descriptions des œuvres, de leur contexte et de leur forme, le couple d'artistes a mis à l'œuvre l'IA, interrogeant son impact sur le monde de la photographie. L'exposition est gratuite et accessible à tous jusqu'au 2 mars 2025.
Et enfin, votre recommandation documentaire de la semaine, L'Armée des Romantiques. Cette série d'animation nous renvoie au beau milieu du 19e siècle. Delacroix, Hugo, Sand, Balzac ou encore Baudelaire, elle retrace l'épopée des jeunes artistes idéalistes qui ont marqué cette période tumultueuse de la France. C'est diffusé ce samedi 21 décembre à 20h50 sur Arte. C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes en podcast sur phoenix.fm.
Merci à Émile à la technique. On se retrouve la semaine prochaine dans quelques instants. Rendez-vous avec Bastien pour La Méridienne. Et à 18h, Amélie animera La Belle Antenne, votre émission d'actualité culturelle. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.